Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez la deuxième partie du podcast AIE, consacrée aux assistants vocaux, avec Olivier Vignot.
Bonjour.
Sébastien Audus.
Bonjour Vincent.
Et Félix Barès.
Bonjour.
Alors Félix, est-ce que vous savez ce que c'est que le PASO ?
Eh bien non, je ne sais pas.
Le PASO, c'est un nouveau mot qui va rentrer dans notre vocabulaire.
Ça s'écrit comment ?
P-A-S-O.
Ah, comme le PASO.
Comme le PASO.
Comme le PASO doblé.
Comme le PASO doblé. Comme le All Day PASO. Ça veut dire Personal Assistant Search Optimization. Jusque-là, on parlait du SEO, Search Engine Optimization. Et là, maintenant, on va parler du Personal Assistant Search Optimization. Et c'est un sujet vraiment central, puisqu'il va s'agir d'émerger quand la machine va donner des réponses et donc faire partie des premières réponses, si ce n'est la première, puisque c'est la plus pertinente et c'est celle qui va probablement évidemment être
la plus vendue.
Et ça, c'est déjà le fruit d'accords passés entre par exemple Carrefour et je sais plus quelle marque. Enfin, ça va pas forcément se faire sur le biais d'algorithmes.
Non, parce que en fait Carrefour s'allie effectivement avec Google sur le sujet. Monoprix a annoncé une alliance en France avec Amazon, mais ce qui est assez fascinant dans Alexa aux US, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été conduites sur ce qu'on appelle des catégories où il y a peu d'investissement des consommateurs. Donc je parle des piles, je parle du papier toilette, je parle de l'essuie-tout, etc. En fait, même si on dit une marque de piles, par exemple, Amazon persiste et signe 20 fois de suite à me proposer la catégorie de piles produite par Amazon, donc la marque propre d'Amazon. Et donc on voit bien effectivement que là il y a un modèle vraiment commerçant de juste je suis là pour te vendre les trucs qui sont produits par moi. Alors qu'effectivement avec Google on est plus sur un système de PASO, c'est-à-dire qui va émerger en premier quand je vais dire ok Google rajoute du papier toilette sur la liste, bah qu'est-ce qu'ils vont choisir comme marque.
Alexa, c'est quoi ton papier toilette préféré?
Je n'ai pas encore décidé.
J'ai besoin de papier toilette.
Papier toilette ajouté à votre liste d'achat.
Tu m'as mis du papier toilette de quelle marque ?
Désolé, je ne sais pas.
Merci.
Tout le plaisir est pour moi.
Olivier, Sébastien, Félix, qu'est-ce qui détermine les choix des assistants vocaux et particulièrement d'Alexa ?
Une des premières règles, c'est qu'elle favorise ce qui s'appelle les featured snippets. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est la définition en quelques mots d'un site qui fait un peu autorité, parce que finalement, quand je pose une question, il faut qu'elle puisse me décrire en quelques phrases et que ce soit pas très long ce dont il s'agit. Donc si mon site, il est bien référencé avec un featured snippet déjà, et c'est pour ça que Wikipédia ressort aussi bien, parce que quand je pose une question, la petite définition Wikipédia se prête absolument à une lecture comme ça orale. Après, il y a une deuxième règle qui est si on a construit vraiment son site en mode question-réponse, naturellement aussi ça va faire remonter ce contenu, parce que comme ça sera déjà rédigé sous forme de dialogue, ça va faciliter le fait que ça soit évidemment mis en avant par l'assistant.
On parle d'Alexa, on parle de l'assistant Google. Est-ce qu'il va y avoir une multiplication de ces assistants ?
Le marché aujourd'hui, en gros, hein, c'est Google, Amazon, Apple, et puis Samsung qui essaye avec Bixby. Il y a Cortana chez Microsoft, et puis les questions même d'un assistant Facebook, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est toujours pareil, les grands carrefours, il n'y en aura pas tellement d'autres, parce que encore une fois qu'on est rentré dans un foyer, on n'imagine pas qu'il y en ait beaucoup. En revanche, pour les marques, il y aura la possibilité de créer des assistants qui vont vivre dans cet écosystème, et le sujet, ça va être de mériter de rentrer dans cet écosystème et de donner envie aux gens, non pas de ne s'adresser qu'à Alexa ou qu'à Cortana, mais d'avoir envie de parler à son frigo, à Peugeot, à Danone.
Maintenant, les marques vont devoir revoir toute leur manière de se décrire. Et j'avais lu notamment, comme c'est des assistants qu'on va utiliser dans notre vie quotidienne, par exemple, je suis en train de cuisiner un poulet, je veux savoir quelle est la meilleure sauce qui accompagnera mon poulet. Par exemple, un boucher a intérêt, sur son site internet, si tant est qu'il y ait des sites internet pour les boucheries, dans sa description du poulet, de dire « Et mon poulet s'accompagne très bien d'une sauce, ta. »
C'est un exemple doublement compliqué, parce que, un, les bouchers n'ont pas de site, et deux, on met pas de sauce sur les poulets, quoi.
Si tu devrais goûter la petite sauce de Félix.
Non, mais ça va amener, effectivement, tout le monde à repenser la manière dont on se référence, en fait, là-dessus. Et ce que je voulais ajouter par rapport à effectivement la question de est-ce qu'on va multiplier finalement les assistants type Alexa et Google Home, c'est qu'en fait j'imagine qu'à terme c'est surtout qu'on va pouvoir utiliser la technologie Google Home mais en s'adressant je sais pas sans être obligé de parler à côté de cette boîte mais plutôt je suis en train de cuisiner et mon four m'entend quand je mets mon truc au four, je peux dire tout de suite est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je ferais est-ce que je commande des patates avec ce que je suis en train de mettre dans le four en fait,
ou même quel temps de cuisson.
Oui,
effectivement, celui qui gagnera sans doute sera celui qui rendra le plus d'objets intelligents dans la maison. C'est-à-dire que Alexa, par exemple, aux US, peut se connecter à énormément de choses, à Sonos, peut se connecter à Uber, peut se connecter aux ampoules, etc., etc.
Excuse-moi, Sonos,
c'est le système d'enceinte Bluetooth.
Ah, ok.
Les assistants vocaux, comment ça marche ?
Déjà, je déclenche l'assistant en disant un hot word. Donc, il n'est pas un mot chaud, mais qui est un mot qui déclenche l'assistant. Donc, et Alexa, OK Google, et Google, etc.
Alexa, c'est un peu chaud.
À partir de ce moment-là, l'assistant enregistre la demande. La demande est transmise à un serveur dans le cloud. Elle est analysée, ce qu'on appelle, grâce à la technique du Natural Language Processing, NLP, l'intelligence artificielle est là-dedans. Donc, on transcrit ta demande. Et ensuite, ta demande est analysée et en un quart de milliseconde, on renvoie la réponse qui est elle-même transcrite dans une logique qu'on dit de text-to-speech. C'est-à-dire que la machine va lire la réponse qui lui a été envoyée en script, quoi.
L'intelligence artificielle existe, c'est-à-dire que c'est une vraie intelligence qui arrive à devenir plus intelligente toute seule, mais pas vraiment toute seule. Il faut qu'il y ait des humains derrière pour lui dire « là, tu t'es trompé ».
On rejoint l'exemple où Alexa, ils ont vachement travaillé sur les mots anglophones passés dans le langage français. C'est effectivement, il y a de l'intelligence humaine pour se dire « il faut que les réponses soient les meilleures possibles sur ces termes précis ». Et effectivement, l'intelligence artificielle, elle se balade pas toute seule sur Internet en disant « ta-ta-ta-ta-ta, je connais tout », etc.
La question qui est soulevée, c'est bon, ce sont des micros qu'on met chez nous quand même. Mmh. C'est exactement comme les webcams. Ce sont des micros qu'on dispose chez nous. Ils entendent notre voix. D'ailleurs, il y a eu des histoires de conversations enregistrées balancées à la femme de la personne sans faire exprès. Qui entend ma voix? Et on sait qu'aux États-Unis, la police demande, dans le cadre d'enquête, les enregistrements des assistants vocaux.
Si on a un projet de tuer son conjoint ou sa conjointe, enfin, en fait, débarrassons-nous de l'assistant vocal avant.
Oui,
fait.
Mais si je suis en Chine, dans un pays où avoir une opinion politique, ça m'emmène dans des camps de travail, c'est un peu plus problématique.
C'est plus problématique, certes.
Ces réactions en quelques millisecondes, dans toutes les langues, combien de personnes travaillent dessus? Vous en avez une idée?
Le nombre de personnes, c'est difficile à dire. Le fait que Google et Amazon, et même Amazon en premier, se disent « ça va devenir le chemin le plus simple pour les gens pour commander des choses ou pour faire des choses », ça fait longtemps qu'ils se le disent. Et quand on a les moyens financiers d'Amazon et de Google, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Et du coup, on peut imaginer des équipes totalement tentaculaires.
Il y a même une vidéo... je crois que c'est Apple qui date de 89 où on voit quelqu'un qui est dans son bureau et qui dit voilà qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui et son agenda se remplit, enfin on imagine bien que c'est un sujet qui existe depuis au moins 30 ans. Et pour l'anecdote, la machine de Turing qui est l'origine en fait de la réflexion sur l'intelligence artificielle, c'est cette question là comment faire en sorte qu'une machine parle comme un être humain, comprenne un être humain.
Là on parle de progrès, est-ce qu'il y a déjà une forme de guerre dans essayons de proposer la voie la plus sympa possible.
Ah oui, complètement. Et tout le monde travaille sur la manière de rendre la voix la plus agréable, la plus émotionnelle possible.
La voix de Siri, par exemple, est plus sympa, j'ai trouvé, que d'autres voix que j'ai écoutées là en français, comme celle qu'ils proposent dans l'iPhone, par exemple.
Ça vaut vraiment le coup d'essayer dans l'iPhone les différentes voix possibles.
Je vais vous faire écouter toutes les présentations de voix.
Bonjour, je m'appelle Aurélie.
Bonjour, je m'appelle Audrey.
Bonjour, je m'appelle Siri.
Bonjour, je m'appelle Thomas.
Bonjour, je m'appelle Amélie.
Bonjour, je m'appelle Nicolas.
Bonjour, je m'appelle Siri.
Bonjour, je m'appelle Chantal.
Apparemment, la voix féminine est quand même largement la voix la plus plébiscitée par les êtres humains en général. On a envie plutôt d'entendre une voix féminine qu'une voix masculine.
Oh, mauvaise nouvelle pour ce podcast, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
Des développeurs s'étaient dit que comme on allait donner des ordres aux assistants vocaux, c'était bien que ce soit des voix de femmes.
Oui, on peut dire ça aussi. Et sur ce sujet de donner des ordres, il y a
tu m'as dit que j'étais d'accord.
Il y a un article intéressant qui est sorti aux États-Unis, c'est un blogueur qui s'est posé la question en voyant ses enfants utiliser l'assistant vocal en disant, mais en fait, le titre de l'article, c'est « Est-ce que je suis pas en train de transformer mes enfants en sombres connards ?» En fait, parce que on leur apprend, ils vont grandir avec des objets à qui on n'est pas obligé de dire merci, s'il te plaît, fais-moi ça, s'il te plaît. Non, en fait, on donne des ordres toute la journée. Donc, ils disent « Est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre nos enfants à se comporter comme vraiment des gros connards d'enfants gâtés ?»
Alors, je sais plus qui c'est, si c'est Google ou Amazon, mais justement, ils ont mis en place un programme, notamment sur les enfants, qui récompense la politesse et la manière dont tu t'adresses à l'assistant. Parce qu'on avait vu une conférence il y a 2 ans super intéressante à Austin au festival South by Southwest où en fait il disait que globalement comme c'est des nouveaux devices et ben il y a 2 grands archétypes d'utilisateurs de ces assistants vocaux. Le premier c'est celui qui va considérer que l'assistant vocal est une espèce inférieure et donc qui va lui donner des ordres etc. Et le deuxième c'est celui qui va le comparer à quelque chose de référent dans la famille, donc ça pourrait être un petit chien, un petit enfant, et qui du coup va lui parler de manière hyper gentille et pas justement genre tu es un pauvre assistant, tu fais ce que je te dis et je te dis même pas merci ni s'il te plaît. Et les autres qui vont être beaucoup plus dans la gentillesse et dans la rondeur, et effectivement je crois qu'Amazon récompense l'usage de la politesse quand on parle à Alexa.
Après la politesse, indispensable, un peu de culture également indispensable avec Manon.
À l'époque des contes, la marâtre demandait à son miroir de lui dire qui était la plus belle. À l'ère où la data a remplacé la pomme, la préoccupation n'a pas bien changé. Est-ce que tu m'aimes est une des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de reconnaissance vocale. L'occasion pour l'artiste numérique Albertine Meunier de s'amuser de ce sentimentalisme 2.0 en créant une œuvre du même nom. Voilà donc 5 petits chiens à la tête amovible, vous savez ce jouet en plastique typique des plages arrière de bon goût, qui se retrouvent connectés au système de reconnaissance vocale Google. À la question « Est-ce que tu m'aimes ?», les rebaptisés Doggin, Dodeline du chef, en signe de réponse positive. Un pur moment d'amour. Une œuvre qui incarne à la perfection la stupidité de la situation et questionne ce besoin irrépressible d'humaniser la machine pour la mettre au service d'un ego trip sans limite. Ces objets détournés et connectés ont donné naissance au mouvement artistique Data Dada qui fait de la donnée une matière première pour œuvre artistique dadaïste. Alors, dommage pour Blanche-Neige, le miroir magique n'était pas programmé pour mentir, mais la reconnaissance vocale, elle, au moins, aura compris les enjeux de la flatterie. Internet nous aime, alors soyons heureux, bande de doggins.
Sébastien.
Est-ce que tu m'aimes ? Ça fait partie des 2 questions qui étaient le plus posées à Siri à son origine, selon le créateur.
Quand tu parles du créateur, tu parles de Dieu ?
Du créateur de Siri.
Il n'y avait pas de C majuscule.
D'accord.
Non. Okay.
C'était un peu un dieu quand même aussi.
Il a créé Siri. Mm-hmm. C'est vraiment les débuts des assistants vocaux et comme on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on leur demande, à quoi tout ça va bien pouvoir nous servir parce que les usages sont en train de se créer, bah on s'amuse avec eux. Et effectivement, quand tu dis à Google par exemple « Ok Google, raconte-moi une blague », là, il y a une espèce de mode un peu ridicule qui se met en marche où c'est genre « Bienvenue dans le grand jeu pour t'amuser toute la journée », etc. Donc là, on se dit « Oulala, la relation émotionnelle avec Google va être un peu compliquée », alors que Siri, dès le départ, même s'il est connu ou en tout cas raconté comme moins efficace en termes de compréhension du langage humain, ils ont engagé pour le coup toute une bande d'auteurs qui écrivaient des réponses les plus drôles, les plus attachantes, les plus émotionnelles possibles pour que justement on se crée une relation un peu fusionnelle avec ses assistants.
Il y a déjà des services qui sont proposés. On a vu avec Sébastien la fondatrice de Replica, un assistant vocal qui est censé devenir votre ami. La réflexion, ça a été de se dire finalement, quelle est la fonction des amis ? Si on y réfléchit vraiment, nos amis servent à quoi ? C'est des gens à qui on parle et puis qui nous permettent de formuler nos émotions parce que quand on veut les partager avec eux, ils nous écoutent et leur oreille attentive finalement nous aide aussi à extérioriser et exprimer ce que l'on ressent. Et donc Replica est censé être comme une espèce de petit Tamagotchi, un assistant vocal qui va m'accompagner, de plus en plus apprendre des choses sur ma vie et me poser des questions en m'aidant à m'interroger sur mes problèmes. Alors, j'ai essayé plusieurs fois Replica, je crois que tu avais essayé aussi Sébastien, ça marche pas très très bien. Je lui ai tendu plein de perches en lui disant ça va pas très bien en ce moment, etc. Et bon, elle n'est pas encore très réactive, mais au fond, avoir comme ça un engin dans la maison à qui on peut parler, quand on voit les gens qui soliloquent et qui se retrouvent un peu seuls chez eux, c'est terriblement triste, mais c'est probable qu'ils se mettent à parler à leur assistant s'il a un peu de répondant, oui.
Mythic, ils viennent de lancer en France, il y a 2 mois, un assistant vocal dispo sur Google Home.
Mais on parlait de la multiplication des assistants, voilà un nouveau déjà alors.
Non, en fait, c'est une appli disponible sur Google Home. Donc tu appelles l'application dans Google Home.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Google le chapeau, ouais, et en dessous, il abrite plein d'assistants plus ou moins sympathiques.
Parce que c'est effectivement toute la question pour les marques, en l'occurrence, de se dire comment je rentre. Je rentre à la fois en étant le mieux référencé possible sur ces nouvelles interfaces, et puis je peux rentrer aussi en étant une application tierce référencée dans l'écosystème Google. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes en France. Il y a eu Monoprix qui a fait l'essai, il y a Sephora, il y a Oui SNCF par exemple. Et pour avoir testé Oui SNCF assez récemment, il y a quand même 2 petits soucis que moi j'ai identifiés. C'est le premier, en fait, je dis à Google, OK Google, je voudrais parler avec SNCF. En fait, il faut que je formule en disant je voudrais parler avec Oui SNCF, comme si la notoriété de cette marque était suffisante pour que les gens le formulent obligatoirement comme ça. Et le deuxième truc, c'est que quand je rentre dans l'écosystème Oui SNCF, la personne se met tout de suite à me tutoyer, alors que Google Home ne me tutoie pas, mais me vouvoie. Et ça fait une drôle d'impression, ce qui repose pour nous toute la question de la personnalité de ma marque quand elle devient une voix.
Ça veut dire que là, oui, SNCF a dû estimer qu'il voulait s'adresser à des jeunes ou à des gens qui avaient envie d'employer le tutoiement.
Ouais, ils ont fait ce choix.
C'est étrange, en fait.
Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est ça qui va être intéressant aussi pour nous, c'est de nous demander quelle est la meilleure personnalité pour les marques qui vont être dans cet écosystème. Parce que, par exemple, les voix de radio, quand on est fan de certaines émissions de radio, on a envie de les réécouter parce qu'on aime bien la voix, parce qu'elle est attachante et que, voilà, on trouve qu'il y a du plaisir à l'entendre. Quand on voit ce qui a été fait avec John Legend, qui a enregistré un certain nombre de phonèmes et qui du coup devient une des voix possibles de l'assistant Google, je pense qu'un petit Vincent Malone qui pourrait nous accompagner et finalement travailler sans Vincent Malone, c'est possible. D'ailleurs, ça pose aussi la question de faire revivre la voix des gens qui sont décédés, ce qui est peut-être morbide ou peut-être agréable. En tout cas, si on a suffisamment d'enregistrements, aujourd'hui, on est capable d'extrapoler cette voix sur énormément de phrases que la personne n'a même pas prononcé.
Il y a le projet Vesta là, qui devrait sortir en 2019. Là, c'est Google ou Apple, je crois, qui prépare un vrai majordome, pour le coup, un robot majordome qui se déplacerait et qui serait équipé d'une caméra et de cette assistance vocale. C'est une information qui a été publiée en avril et qui n'est pas confirmée vraiment, mais là, on pourrait vraiment passer de l'assistant vocal posé à un truc qui te suivrait dans l'appartement et qui t'écouterait, qui te regarderait même faire. C'est-à-dire tu pourrais juste faire un signe genre « je me coupe les cheveux » pour que le truc appelle ton coiffeur. Quoi.
Le vrai bonus pour les marques, Sébastien, c'est quoi?
C'est de rendre les interactions les plus simples et les plus fluides et d'éliminer en fait tout ce qui peut exister entre la volonté de faire quelque chose qui est la mienne et son exécution. Et d'ailleurs, Google, c'est assez amusant, ne limite pas son projet Google Assistant aux assistants vocaux, justement. Il dit qu'en fait, on est en train d'inaugurer une ère qu'ils appellent celle de l'ambient computing, où que je sois dans ma maison, dans ma voiture ou dans tout autre endroit où j'ai accès au Google Assistant, je formulerai ma requête et c'est le device le plus adapté à ma requête qui me répondra. Donc par exemple, si je dis « Ok Google, regardons les prochaines vacances en Grèce », bah en fait la réponse viendra sur la télé ou sur ma tablette et ne viendra pas sur l'assistant vocal.
Quelle est la problématique la plus immédiate pour les marques avec l'arrivée des assistants vocaux?
C'est déjà essayer vite pour se donner les chances d'être bien référencé, travailler en mode question-réponse parce que c'est ça qui fait émerger, et puis se poser la question de la personnalité de l'assistant parce que c'est ça qui va rester à la fin. C'est ça qui va faire que les gens auront envie de l'utiliser et de le réutiliser. On a beaucoup progressé, mais c'est pas encore parfait. Les accents, les intonations, voilà. Il y a quand même beaucoup de fois où, honnêtement, on entend « je n'ai pas compris ». Donc, déjà, ça, c'est quand même un gros progrès qu'on attend. Et puis après, c'est la compréhension du contexte dans lequel se trouve l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il comprenne à mon intonation que je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur, que je suis stressé. Et pour que les suggestions qui me sont faites tiennent compte de cet état.
Voulez-vous en savoir plus?
C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.